Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors on parle beaucoup de la Duchesse de Berry en ce moment, une exposition lui est consacrée à Blois jusqu'au 26 mai. Et dès ce soir, à l'ambassade de la République tchèque, aura lieu une grande conférence musicale à plusieurs voix. Il n'en fallait pas davantage pour piquer la curiosité de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous savez, il y a longtemps que ce personnage m'intéresse, la libre, fantasque et passionnée Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, Duchesse de Berry, est une figure hors norme et pourtant, c'est la première fois en 10 ans que je lui consacre une émission.
Eh bien, pour nous faire connaître cette femme étonnante, vous avez invité sa plus récente biographe.
Et oui, Laure Hillerin est l'auteur chez Flammarion de La Duchesse de Berry, l'oiseau rebelle des Bourbons. Elle fait partie des historiens qui ce soir vont parler à l'hôtel de la Rochefoucauld-Ligne, donc à l'ambassade de la République tchèque. Je suis d'autant plus heureux de la recevoir qu'elle a choisi, contrairement à ses devanciers, de nous présenter cette femme sous un jour favorable. Et si j'osais, je dirais, il était temps.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Alors pour commencer aujourd'hui, je vais vous parler d'un meuble, d'une pièce de mobilier. Vous dire un mot de la célèbre toilette du Louvre. Ah, c'est un meuble incroyable, très spectaculaire, puisqu'il est entièrement en cristal. Vous savez, ça, quand je me rappelle que quand j'étais adolescent et que j'allais au Louvre, ça me fascinait. Je tournais autour de cette célèbre toilette qui se compose d'une table surmontée d'un miroir à double face. Et il y a le fauteuil assorti et tout ça sans bois, puisque, encore une fois, le meuble est constitué entièrement de plaquettes et de manchons de cristal taillé. Tout ça serti sur une armature de fer, bien entendu. Quand je dis il n'y a pas de bois, il y a juste le châssis du siège qui est en hêtre tout de même. Et puis, les morceaux de cristal sont bagués de bronze doré. Ah, c'est un authentique chef-d'œuvre. Et comme tous les chefs-d'œuvre, évidemment, celui-ci possède ses zones d'ombre. Ce que l'on sait, c'est que ce chef-d'œuvre provient d'une boutique célèbre qui se trouvait autrefois sous les arcades du Palais Royal, dans la galerie de Valois. La boutique s'appelait « À l'escalier de cristal ». On la connaissait partout en Europe, hein, cette boutique. Sa propriétaire, Madame Charpentier, veuve des Arnauds, avait eu l'idée de faire monter en bronze des objets donc de ce cristal. C'était tout nouveau à l'époque, hein, cette matière, ce verre luxueux dont la faveur allait croissant. On peut dire qu'elle avait d'abord vendu des vases, tout simplement, et puis des services de table, de verrerie, etc. Puis petit à petit, Madame veuve des Arnauds s'était dit qu'on pouvait peut-être faire des objets un peu plus importants. Alors elle avait fabriqué des pendules, et puis elle s'était mise à proposer à sa clientèle des girandoles entières, c'est-à-dire des, si vous voulez, de très grands, comme des lampadaires en quelque sorte, qui étaient eux-mêmes en cristal et surmontés de chandeliers de cristal. C'était assez extraordinaire. Et puis, eh bien, petit à petit, on s'était mis à fabriquer des meubles entiers et l'engouement pour ces objets était devenu tel que sous Louis XVIII, Madame des Arnauds a fini par remporter, on est en 1819, la médaille d'or à la deuxième exposition des produits de l'industrie, salon d'un prestige suffisant pour se tenir au Louvre. Or, si cette production d'un nouveau genre était extrêmement fragile, on peut dire que c'était difficile de faire vieillir un meuble qui est en cristal, hein, eh bien en vérité, le fleuron le plus beau de tous ces meubles, il nous est parvenu sans dommage et justement, et ça c'est un peu un clin d'œil de l'histoire, c'est au Louvre qu'il est exposé. Alors on ne sait pas grand chose, pour tout vous dire, des pérégrinations de ce meuble. Il a été offert au Louvre en 1989 par un amateur avec le concours d'un grand marchand parisien. Enfin, on ne va pas entrer dans ces détails. Ce meuble, on sait qu'il avait été, il est passé dans pas mal de mains, dont celle de Maurice Buneau-Varilla. Son plus ancien propriétaire connu a été en 1895 un collectionneur de souvenirs napoléoniens qui pensait qu'en fait il s'agissait d'une toilette qui avait été faite pour l'impératrice Marie-Louise. Il était mal renseigné, ce collectionneur. Et puis, si vous voulez remonter plus haut, on ne sait rien. Ce qu'on a tout de même, c'est une lithographie d'Arnoux qui représente les meubles qui ont été primés en 1819 pour la fameuse exposition et on retrouve évidemment, parmi les meubles qu'a dessiné Arnoux, on retrouve la fameuse toilette. Sauf que, et ça c'est assez étonnant, si vous regardez vraiment dans le détail, vous allez vous rendre compte que les motifs taillés dans le cristal, et notamment les pieds antérieurs du fauteuil, ne sont pas les mêmes que ceux du Louvre. Alors, est-ce que le dessinateur a laissé libre cours à sa fantaisie? Est-ce qu'il a fait sa planche à partir d'un simple projet de l'ébéniste Nicolas Jacob? Ou est-ce que la toilette qu'il a dessinée sur son estampe était en vérité une cousine de celle dont nous parlons? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on possède dans les archives un mémoire comptable qui porte trace d'une livraison en 1822 de 3 meubles de cristal au château de Rosny. Or, le château de Rosny, c'est la propriété de la duchesse de Berry. Nous allons y venir dans un instant, puisque la duchesse de Berry, c'est notre personnage d'aujourd'hui. Et l'on sait que cette duchesse de Berry était une cliente attitrée de l'escalier de cristal. Alors, est-ce que le célèbre meuble du Louvre, est-ce que ce merveilleux miroir ovale a vu un jour se refléter les traits délicats de notre Marie-Caroline? C'est très possible. Je crois que nous pouvons imaginer la princesse assise à cette table, en trouvant le tiroir devant elle. Pourquoi est-ce qu'elle l'en trouve? Parce qu'en vérité, ce tiroir, figurez-vous que c'est une boîte à musique, et quand on le tirait vers soi, eh bien, on entendait surgir du cristal une musique cristalline.
Sur Europe 1 de l'ouverture du concerto pour harpe et orchestre en ut majeur de Boieldieu. À tout de suite pour parler de la comtesse de Berry.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec votre premier invité, Franck, sur Europe 1, Laure Hillerin, qui est journaliste, écrivain, biographe, auteur notamment de La Duchesse de Berry.
Et, oui.
Et non comtesse, l'oiseau rebelle des Bourbons, disponible chez Flammarion dans la collection des grandes biographies.
Oui, et je l'ai sous les yeux, ce livre, avec cette très jolie Duchesse de Berry, qui est à la chasse sur le portrait qui nous est présenté. Il y a à côté d'elle un chien courant et un fusil qu'elle a déposé. Une sorte de grand chapeau également. On est dans cette mode de la restauration. Elle est littéralement radieuse. Alors on va parler de cette belle princesse dont le destin a été extraordinaire. Elle a épousé l'héritier du trône de France. Son mari a été assassiné. C'est le fameux duc de Berry qui en 1820 est tombé sous le poinçon de Louvel. On a raconté ça à ce même micro il y a quelques temps. Et puis ensuite elle va soulever une province entière. On va voir, elle finira dans une prison. Enfin, elle ne va pas finir, mais elle se retrouvera dans une prison de Louis-Philippe, tout ça pour vous dire que c'est un personnage de roman extraordinaire et comme bien souvent, la réalité dépasse dans ce domaine la fiction. Ce qu'il faut dire, Laure Hillerin, c'est que cette petite princesse est née évidemment, elle est née dans le sérail, hein, tout à fait, elle était elle-même la fille de la reine de Naples, ce qui veut dire que sa grand-mère était la sœur de Marie-Antoinette.
Absolument. Marie-Caroline de Bourbon-Sicile était une princesse napolitaine. Elle est née en 1798 dans le royaume de Naples, qui était un petit royaume assez exotique aux confins de l'histoire.
Et il faut dire qu'à cette époque, le moins qu'on puisse dire, c'est que le royaume de Naples a subi pas mal de vilainies, hein, puisque c'était l'époque de l'invasion, enfin des campagnes de Bonaparte. Et donc, on passait son temps à franchir le détroit et aller s'installer en Sicile pour se réfugier.
Absolument. À deux reprises, Marie-Caroline n'avait pas 2 mois que déjà toute la famille embarquait par une tempête épouvantable dans un navire conduit par l'amiral Nelson, et il fuyait l'arrivée des troupes du général Championnet qui allait instaurer la République parthénopéenne.
Alors, c'est très romanesque tout ça. On est sur ce fond de, évidemment, de baie de Naples, hein, le plus beau décor d'Europe, objectivement. Et puis on est dans une période aussi où ce royaume de Naples était peut-être l'endroit où se retrouvait tout ce qu'il y avait de plus brillant en matière de poètes. C'est l'époque de Lady Hamilton, etc. Enfin bon, on est donc dans cette atmosphère assez extraordinaire, et elle a des frères et des demi-frères et des sœurs et des demi-sœurs, tout ça en quantité, c'est toute une incroyable fratrie là.
Oui, parce que sa mère, qui était également une princesse autrichienne, est morte très jeune quand elle avait 3 ans. Son père a épousé une cousine, une infante espagnole, et elle a pondu un enfant tous les 2 ans. à peu près, ce qui fait que Marie-Caroline avait une douzaine de demi-frères et de demi-sœurs, sans compter d'innombrables oncles et tantes qui étaient les enfants de sa grand-mère, la reine Marie-Caroline.
Et il y avait de la vie dans la famille.
Absolument. Et parmi ses oncles et tantes, Marie-Amélie, qui épouserait en 1809 le duc d'Orléans.
Et oui, le futur Louis-Philippe, c'est ça qui est assez extraordinaire. En fait, cette famille de Bourbon-Sicile a donné beaucoup d'épouses, on va dire, à nos princes français. Alors, ce qui est assez... Elle descendait elle-même, d'ailleurs, c'est une famille de Bourbon, faut pas oublier,
absolument.
Ils descendent de Louis XIV. Ils descendent
de Louis XIV. Oui.
Alors, là où c'est assez extraordinaire, c'est que l'éducation reçue par Marie-Caroline n'est pas l'éducation extrêmement stricte à laquelle on serait en droit de s'attendre. Notamment, elle va quand même passer une partie de son enfance à Vienne. C'est pas une éducation viennoise, c'est très libre finalement tout ça.
Elle n'a pas passé son enfance à Vienne. Vous parlez de Marie-Caroline, la mienne.
Oui,
elle a eu une éducation extrêmement libre puisqu'elle a passé la plus grande partie de son enfance en Sicile, puisqu'en 1806, ils ont à nouveau fui en Sicile pour devant les troupes de Bonaparte cette fois-ci. Et son éducation a été non pas négligée, mais disons un peu approximative. Elle a beaucoup vagabondé dans la campagne, nagé dans la mer. On lui a quand même enseigné les rudiments d'une éducation artistique. Elle parlait italien, elle parlait français.
Et elle avait l'âme artiste, on peut dire.
Oui.
Non seulement elle avait le goût des beaux-arts, mais elle-même s'essayait d'ailleurs.
Elle a peint de très jolies aquarelles. C'était une artiste dans l'âme. Elle n'avait peut-être pas assez de continuité pour devenir une véritable artiste. Mais elle s'est bien rattrapée en étant une grande mécène.
Et oui. Alors vous nous dites, dont d'ailleurs parmi les gens qu'elle a aidés, il y avait Boieldieu, dont on a entendu un extrait de concerto.
Qui lui a dédié un opéra à la Dame Blanche.
La Dame Blanche, on l'écoutera tout à l'heure. Enfin, on en écoutera un petit extrait. Alors, vous nous dites qu'elle a très tôt connu les bains de mer. On sait que c'est elle qui, en France, va mettre les bains de mer à la mode. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et Franck, vous nous parlez aujourd'hui d'une princesse pas comme les autres, la duchesse de Berry.
Et oui, cette duchesse de Berry qui était pleine de vie en vérité, qui aimait la vie, qui aimait les arts, nous disiez-vous, Laure Hillerin. Elle avait du goût, si je puis dire.
Elle avait énormément de goût que même ses détracteurs lui ont reconnu et elle collectionnait les tableaux, mais pas seulement les tableaux, les bijoux, les étoffes. Elle était une grande mécène également pour les musiciens. Elle achetait beaucoup, elle s'intéressait beaucoup à l'industrie, ce qu'on appelait l'industrie à l'époque. Elle a relancé
les objets manufacturés, etc.
Absolument, elle a relancé l'artisanat de la ville de Dieppe par ses achats d'ivoire. Elle faisait ses emplettes elle-même dans les magasins, ce qui était une chose totalement révolutionnaire pour l'époque.
Était très moderne en fait, c'est ça. Elle a été la première, en tout cas en France, à faire un certain nombre de choses. On va y venir à l'instant, parce que pourquoi s'appelle-t-elle duchesse de Berry? Pourquoi parle-t-on d'elle en France? Eh bien, c'est parce qu'elle va épouser l'héritier du trône. Alors, il faut expliquer dans quelles circonstances. Il faut dire que ça, c'est un peu complexe et c'est une des raisons pour lesquelles on ne parle pas assez de la duchesse de Berry, c'est qu'il est difficile de la situer quand on n'est pas très familier de l'histoire. C'est tout simple. Pendant la Révolution, le roi Louis XVI, la monarchie est abolie en France en 1792 et puis les frères de Louis XVI, les comtes de Provence et d'Artois, sont partis en exil. Et après la Révolution, après le consulat, après l'Empire, au moment de la chute de Napoléon Ier, c'est un des deux frères de Louis XVI, qui s'appelait le comte de Provence, qui devient le roi. C'est Louis XVIII. Ce Louis XVIII n'a lui-même pas d'enfant. Alors son héritier immédiat, c'est son frère, le comte d'Artois, qui va devenir le roi Charles X. Et Charles X, lui, en revanche, a un fils qui est le duc de Berry. Et il faut lui trouver
Oui, alors il avait un fils aîné, surtout, qui était le duc d'Angoulême.
Épousé
sa cousine, Madame Royale, l'orpheline du temple.
Qui eux non plus n'ont pas d'enfant.
Donc le duc de Berry était le seul capable d'assurer la postérité.
Et il faut lui trouver une épouse.
Absolument. Et on a donc cherché, et finalement c'est Talleyrand qui aurait proposé une Bourbon-Sicile. On restait entre Bourbons, on était en famille, et puis les Bourbons-Sicile étaient connus pour être très prolifiques, et avec cela on avait de bonnes chances d'assurer la postérité. Le duc de Berry avait prouvé qu'il était capable de procréer, puisqu'il avait déjà semé un certain nombre d'enfants naturels, et il avait notamment deux fillettes de l'anglaise Amy Brown.
Alors, à quel moment est-ce que a lieu cette fameuse rencontre entre le duc de Berry et sa future épouse ?
Alors, on a embarqué en 1816, à peine rentrée de Sicile, Marie-Caroline a pris la mer par une tempête épouvantable. Elle est arrivée à Marseille. À Marseille, elle a été Elle a eu une période au lazaret parce qu'il y avait toujours des pestes, qu'on appelait ça des pestes à l'époque.
Mmh. Donc on la met en quarantaine. En fait, hein.
Elle a subi une quarantaine au lazaret de Marseille. Et puis elle a entrepris pendant 15 jours une traversée de toute la France dans une véritable liesse populaire. Et la rencontre officielle a eu lieu à Fontainebleau, à l'endroit même où Louis XV avait rencontré Marie Leczinska. Avant cette rencontre, les deux futurs époux s'étaient écrit des lettres qui étaient de plus en plus tendres.
Vous dire qu'il y a une forte différence d'âge entre eux.
20 ans.
20 ans.
20 ans. Elle avait 16 ans, le duc de Berry en avait 36.
Et lui, il avait, comme vous nous l'avez dit, il avait déjà sa vie, si je puis dire. Il vivait maritalement. On ne sait même pas s'il ne se serait même peut-être pas marié en Angleterre avec cette fameuse Amy Brown.
Oui, la chose est possible. Et puis, il entretenait en outre de nombreuses maîtresses. Néanmoins, ils ont formé un excellent ménage. Ils étaient tous les deux doués pour le bonheur. Ils avaient eu une enfance assez semblable, une enfance très chahutée par l'histoire, marquée par l'exil, une éducation assez approximative et un grand goût de la liberté, des plaisirs et un commun goût pour l'art.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque les frères de Louis XVI remontent sur le trône, c'est cette restauration des Bourbons, il faut assurer l'avenir de la dynastie. Alors, le roi Louis XVIII, disons-le, est un personnage obèse, il est presque impotent, et ça commence à être un vieux monsieur. Son frère Charles X, donc on l'a dit, a deux fils. Le fils aîné n'a pas d'enfant. Il est marié lui-même avec la fille survivante de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avec Madame Royale. Donc tout ça est un peu triste, disons-le, et le seul espoir de la dynastie et donc de la France à l'époque, c'est ce jeune couple, si l'on peut dire, c'est le duc de Berry et cette Marie-Caroline qui doit à tout prix donner un héritier.
Oui, elle incarne, elle s'en rend compte dès sa traversée de la France, un espoir absolument formidable auprès du peuple français. Et très vite, elle conquiert tous les cœurs, car c'est quelqu'un de particulièrement spontané.
Oui, et elle va savoir séduire les Français très vite.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
La Duchesse de Berry, l'oiseau rebelle des Bourbons, est disponible chez Flammarion et son auteur Laure Hillerin, qui est journaliste écrivain, est avec nous aujourd'hui.
L'amour est un oiseau rebelle, disait Bizet dans Carmen. Cet oiseau rebelle des Bourbons va savoir apprivoiser les Français. Elle est pleine de vie. Son mari lui offre très vite une sublime résidence, il faut dire, le château de Rosny.
Le château de Rosny, qui était la demeure de Sully, où avait séjourné Henri IV. Donc c'était aussi un achat symbolique. C'était un très vaste domaine.
Ça se trouve
domaine.
Du côté de Mantes-la-Jolie.
À côté de Mantes-la-Jolie, oui.
Quand on parle du péage de Rosny sous bois, c'est ça, on est juste à côté.
Non, là c'est Rosny sous Seine, sur Seine.
Sur Seine,
c'est pas le même Rosny.
C'est pas le même Rosny, pardon. Alors ce château de Rosny était un véritable conservatoire pour la duchesse de Berry.
Oui, c'est là qu'elle a vécu le plus clair de son temps, dès qu'elle pouvait s'y échapper, après la mort de l'assassinat de son mari, pour fuir la cour des Tuileries qui était absolument sinistre.
Qui était un peu irrespirable.
Irrespirable pour une femme aussi éprise de liberté qu'elle. Et là-bas, elle avait établi un petit royaume à sa mesure et elle y réunissait toutes ses fantastiques collections.
Alors, en 1820, février 1820, nous l'avons dit, la duchesse de Berry est enceinte. Et il y a une grande soirée à l'opéra de la rue Pelletier à l'époque, qui se trouve à peu près au niveau du square de l'ancienne bibliothèque nationale.
Le square Louvois.
Le square Louvois. Et un assassin, disons, un Versaillais qui s'appelle Louvel, va donc planter son poinçon dans la poitrine du duc de Berry, qui va mettre une nuit entière à mourir. Alors il y a là des scènes assez extraordinaires, parce que le duc de Berry confie à sa femme l'avenir de la dynastie, mais aussi ses propres secondes familles, si l'on peut dire.
Oui, c'est une scène qui mêle le burlesque au tragique absolument extraordinaire. Alors le duc de Berry, en effet, révèle à haute voix. Il dit à Caroline, prends soin de toi pour l'enfant que tu portes. Donc il révèle, car il se doute bien qu'il va y avoir des rumeurs malveillantes. Et en même temps, il fait venir les deux petites filles qu'il a eues d'Amy Brown. Et la duchesse de Berry leur ouvre les bras et leur dit, tu vois maintenant, j'ai trois filles. Et elle tiendra promesse.
Oui, parce qu'elle avait déjà une fille, il faut dire, qui était née.
Oui. Elle avait une fille, elle avait eu un enfant mort-né, une fausse couche. Donc,
on attendait un héritier, il ne venait pas. Sauf que là, il va venir, mais après la mort de son père.
Alors, le duc de Berry agonise dans des circonstances à la fois tragiques et burlesques, au milieu d'harlequins et de danseuses en tutu, puisque c'est en plein carnaval. Et il révèle que sa femme est enceinte. Et là, elle revient. Elle n'a plus le droit d'habiter l'Élysée Bourbon. Mm-hmm. Elle est en quelque sorte en résidence surveillée.
Ce que vous appelez l'Élysée Bourbon, c'est notre actuel palais d'Élysée. Hein, qui était leur résidence à Paris.
Oui, absolument. Et le 29 septembre, elle va donner naissance à un enfant posthume. Là également, dans des circonstances à la fois burlesques et tragiques, puisqu'elle accouche en deux douleurs, comme on le disait à l'époque. Les témoins qui devaient être présents pour témoigner de la véracité de cet accouchement n'ont même pas le temps d'arriver. La gouvernante des enfants en jupon court court alerter les officiers de la garde qu'on somme de défiler devant la parturiente qui montre que son enfant lui tient encore au corps car elle a refusé qu'on coupe le cordon.
On n'a pas coupé le cordon pour bien prouver que...
L'accoucheur est arrivé en retard, en trébuchant dans son pantalon mal enfilé. Enfin, Caroline a le don de mêler la tragédie et le burlesque dans tous les épisodes de sa vie. C'est assez étonnant.
C'est ce que vous montrez très bien dans ce livre L'oiseau rebelle des Bourbons qui paraît chez Flammarion. Vous allez raconter ça ce soir, j'imagine, à l'ambassade de la République tchèque.
Oui, nous serons trois à nous partager le micro. Mais je vais beaucoup parler.
Il y aura des intermèdes musicaux, etc.
Il y aura des intermèdes musicaux. Et puis, Jean-Paul Clément, l'ancien directeur de la Vallée aux Loups, va parler de la Duchesse de Berry et Chateaubriand. Et Daniel de Montplaisir, auteur d'un livre sur le comte de Chambord, va parler du duc de Bordeaux.
Ce qu'il faut dire, c'est que vous, Laure Hillerin, vous aviez une bonne raison d'écrire sur la Duchesse de Berry, parce qu'elle est très proche de votre famille, il faut dire. Expliquez-nous
ça. C'est
vrai.
J'en ai entendu parler toute mon enfance, qu'il se trouve que sa gouvernante à Naples, Madame de la Tour en Voivre, était ma quadrisaïeule. Elle avait une fille, Suzette.
Arrière-arrière-grand-mère, en fait.
Voilà. Qui a joué avec la Duchesse de Berry toute son enfance, qui était son amie d'enfance, qui l'a accompagnée à Paris. On l'a mariée avec le comte de Meffray. Elle est devenue sa dame pour accompagner et elle a vécu près d'elle la plus grande partie de sa vie. La Duchesse de Berry est pratiquement morte dans ses bras à Brunsy.
Alors après la naissance du duc de Bordeaux, on peut dire qu'elle est donc elle est la mère de l'héritier du trône. C'est son statut à la cour.
Son statut a complètement changé puisque elle est devenue un personnage. Elle après la mort de Louis XVIII.
Oui, alors parce qu'il faut dire que 4 ans plus tard, Louis XVIII meurt.
Voilà.
C'est ce roi impotent là, il meurt. Et puis c'est donc son frère qui devient le roi Charles X.
Voilà, elle est donc la belle-fille du roi Charles X et elle exige de porter le titre de madame que en principe elle ne devrait pas porter puisque Charles X est toujours vivant, mais quand elle a quelque chose dans la tête, généralement, elle l'obtient. Donc, tout le monde l'appelle madame. Et là, elle donne libre cours. Ce sont les plus belles années de sa vie. Elle dira plus tard, je n'ai jamais été heureuse qu'à Rony. À Rony, elle entretient une véritable petite cour. Elle collectionne.
Oui, elle a un statut. Elle a de l'argent. Elle a la liberté. Elle est veuve. Elle a cet enfant qui est en train de grandir, qui est l'espoir du pays. Tout va bien. Sauf qu'en 1830, c'est la Révolution. On va voir dans quelles circonstances. Et ça va être l'exil pour la famille royale. Pour la Duchesse de Berry, c'est le début des années difficiles.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit qui revient donc maintenant sur l'exil de la Duchesse de Berry, Franck.
Et oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juin 1830, c'était encore la fête pour la Duchesse de Berry, puisque les Bourbons de Naples, son père et sa belle-mère, qui revenaient à ce moment-là de Madrid, sont reçus en grande pompe par le roi Charles X. Son père s'appelle donc le roi François Ier, son épouse la reine Isabelle sont en France en visite officielle. Le roi s'est mis en tête de les traiter, on peut dire, sur un grand pied. Alors ce sont des bals parés, des grands soupers aux Tuileries, à l'ambassade d'Espagne, au palais royal même. Le roi Charles fait beaucoup de politesse à son cousin, note la duchesse de Maillé. Ce qui m'étonne, car lorsque je lui en ai entendu parler, c'était un peu comme d'un cousin de province. Elle était toujours de mauvaise langue, la duchesse de Maillé, mais c'est merveilleux à lire. La vérité, c'est que Charles X voudrait faire oublier le climat de tension qui existe à l'époque dans le royaume du fait de l'hostilité de plus en plus importante de l'opinion, hostilité au ministère Polignac. Alors, à l'occasion de ces festivités, on va rouvrir le château de Versailles. On voit le roi Charles, qui est toujours fringant, bien qu'il ait 73 ans. On le voit monter à cheval pour une revue militaire. Et puis, il rejoint ses hôtes dans la calèche qui les emmène au milieu des grandes eaux jusqu'à Trianon, où l'on dîne. La fête est super. La presse va pouvoir en renvoyer les échos les plus flatteurs. On peut dire que tout ça, ce sont de grandes solennités. Ce que ne peuvent pas savoir les gens de la famille, c'est qu'en fait, c'est la dernière grande fête du règne. Car un mois plus tard, le souverain, qui avait été euphorisé sans doute par la nouvelle de la prise d'Alger, vous savez qu'on est en plein dans la conquête de l'Algérie à l'époque 1830, Charles X va signer, en vertu de l'article 14 de ce qui sert de constitution à l'époque, de la charte, il va signer les fameuses ordonnances. Vous voyez, ces ordonnances qui ont été jugées liberticides. Et ça, ça va mettre le feu aux poudres. C'est la révolution, une nouvelle révolution, celle dite des Trois Glorieuses. Dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 juillet, après trois journées d'insurrection parisienne, le roi Charles est contraint, pour sa sécurité, pour celle de ses proches, il est contraint de quitter le château de Saint-Cloud où il résidait et de s'éloigner de la capitale. Alors il faut imaginer tout un convoi de voitures surchargées que suivent 12 attelages d'apparat, 130 chevaux de trait, 100 chevaux de selle, 4 compagnies de gardes du corps. Charles X traverse donc Ville d'Avray en grand équipe. Il parvient peu après 4 heures du matin au sommet de la butte de Picardie. Et là, le marquis de Vérac, qui est toujours gouverneur du château de Versailles, l'attend pour lui dire que des gardes nationaux versaillais, qui arborent à leur chapeau la cocarde tricolore, occupent déjà la place d'armes. C'est pas la peine d'avancer. La seule destination possible, c'est Trianon. Et moins d'une heure plus tard, aux premières lueurs de l'aube, le souverain, déjà presque en exil, retrouve Trianon. Imaginez, c'était le séjour de sa jeunesse, lorsqu'il était l'idole de la cour, le beau-frère préféré de Marie-Antoinette. Un demi-siècle a passé depuis lors, 6 régimes se sont succédés et on peut dire que le grand Trianon, entre parenthèses, il a été remeublé par Napoléon, donc il est maintenant en style empire, on va dire. À peine s'est-on posé que la duchesse de Berry est annoncée. Alors il faut dire qu'elle lit beaucoup les romans de Walter Scott à l'époque. Il y a un côté fantasque, vous l'avez compris, chez cette duchesse de Berry. Elle survient, nous dit un chroniqueur, dans le salon revêtu d'un large pantalon et d'une redingote verte à collette velours. Ses cheveux sont cachés par un feutre orné d'une boucle d'or et elle a passé 2 jolis pistolets à sa ceinture. La princesse peut voir l'ennemi venir. Alors évidemment, ça fait sourire le roi Charles X, mais c'est un sourire qui ne va pas durer. Évidemment, il faut reprendre la route, cette fois en direction de Rambouillet. Charles X, qui a confié ses troupes au dauphin pour mieux lui abandonner l'état-major de Saint-Cloud, ne veut pas faire mouvement sans avertir le dauphin, donc le beau-frère de la duchesse de Berry. Les fidèles tournent en rond au milieu des parterres desséchés du Grand Trianon. Personne ne sait combien l'attente va durer. Et un peu plus tard dans la journée, tandis qu'à Paris, le duc d'Orléans, qui n'est pas encore Louis-Philippe Ier, est en train de se rendre à l'hôtel de ville pour recevoir l'accolade de Lafayette. C'est vraiment un changement de régime qui est en cours. Le dauphin surgit à Trianon à la tête de son armée. Il est talonné par des gardes nationaux qui cette fois se montrent vraiment menaçants. Cette fois, il est temps de lever le camp. Le roi Charles X ne s'y résout toujours pas. Il entend la messe, il tient encore un conseil, il arpente les lieux, ces lieux encore une fois qui sont ceux de sa jeunesse. Et quand vraiment il ne peut plus faire autrement, eh bien il s'arrache, lui, le dernier frère de Louis XVI, à ce domaine préservé en quelque sorte. On peut dire que c'est le dernier jardin de l'ancienne France.
Un extrait sur Europe 1 de La Dame Blanche, opéra comique de Boieldieu, dédié à la duchesse de Berry.
Alors, c'est Laure Hillerin qui nous raconte la scène suivante. Lorsqu'est arrivée la nouvelle de la prise des Tuileries, on est pendant ces journées, de ces Trois Glorieuses, Caroline a perdu son sang-froid et fondu en larmes. Craignait-elle pour ses collections? Pas du tout. C'est une certaine cassette laissée dans ses appartements qui la préoccupait. L'idée, que quelqu'un puisse la trouver et en découvrir le contenu semblait lui causer les plus vives alarmes. Aussi, lorsqu'un garde du corps lui a proposé d'aller la chercher, cette cassette, elle a failli lui sauter au cou. L'homme, déguisé en charbonnier, a pu entrer sans obstacle dans les appartements de madame. Il a trouvé la cassette à l'endroit indiqué et l'a fourrée discrètement dans son sac. Seulement, on fouillait tout le monde à la sortie, précisément pour éviter les vols. Alors, il a pris la fuite, se frayant le passage à coups de poing. Il a traversé en courant la place du Carrousel et atteint la Seine au moment où ses poursuivants allaient le rejoindre. Avec une remarquable présence d'esprit, il a jeté la cassette à la Seine. Et lorsqu'il est revenu rendre compte de sa mission, Madame, en apprenant que sa cassette était noyée, parut soulagée d'un grand poids. Elle lui a pris la main avec effusion et il a embrassé cette main avec dévotion. Madame, ce me semble, est très vulnérable lorsqu'il s'agit de l'être, ironise Aponie, le chroniqueur qui raconte cette histoire. En effet, que pouvait bien contenir cette mystérieuse cassette sinon des papiers? Si elle avait renfermé des bijoux, nous dit Laurie Lerin, Caroline n'aurait pas paru soulagée à l'annonce de sa perte. Il s'agit donc à coup sûr de documents compromettants. Des preuves du mariage morganatique du duc de Berry et d'Amy Brown, qui pourraient remettre en question la légitimité du duc de Bordeaux? Elle les aurait fait disparaître depuis longtemps. Non. Cette cassette contenait à l'évidence des lettres d'amour que nous ne lirons jamais, et pour cause, puisqu'elles se trouvent actuellement au fond de la Seine. Alors, quelles étaient ces lettres, Laurie Lerin? C'est un des mystères que vous soulevez dans cette biographie.
Oui, nous ne le saurons jamais, comme vous l'avez très justement souligné. Et c'est un mystère qu'on peut-être mettre en relation avec l'enfant de Bly.
Il faut expliquer qui est cet enfant de Bly.
Et oui, alors là, ça nous oblige peut-être à avancer un peu.
Un peu dans le temps,
faudrait...
oui.
Peut-être quand même revenir très rapidement en arrêt sur cet exil. Il faut dire que dès les premiers jours des Trois Glorieuses, la duchesse de Berry a demandé à Charles X de monter à cheval et d'aller se présenter aux Parisiens avec son fils. Et elle aurait probablement pu faire échouer la Révolution.
Ça c'est sûr. Ouais. En tout cas.
Ensuite, toute la famille est partie en exil et s'est retrouvée en exil à Édimbourg, enfin en Angleterre d'abord et puis en Écosse. Et là, Caroline a senti qu'elle ne supporterait pas d'être enfermée dans ce lugubre château d'Holyrood.
Alors à elle toute seule, elle va décider de mener sa propre campagne, ça c'est incroyable.
Oui, mais il faut dire que Charles X,
c'est
un vieux monsieur qui ratiocinait pour expliquer qu'il n'avait pas le choix, qu'il avait bien agi, donc il n'y avait pas grand-chose à espérer de son côté. Donc tous les partisans légitimistes s'étaient reportés sur la duchesse de Berry, qui est partie s'installer à Bath, d'abord en Angleterre, et puis ensuite dans le nord de l'Italie, à Massa di Carrara, et pour préparer un débarquement avec les légitimistes qui faisaient le va-et-vient entre la France et elle. Et qui correspondait à grand renfort de lettres écrites au jus de citron. Donc la duchesse de Berry était au centre d'un véritable foyer d'intrigue de tous ceux qui voulaient remettre le duc de Bordeaux sur le trône.
Sauf qu'évidemment, la police de Louis-Philippe, elle faisait son travail pendant ce temps.
Elle était très très bien informée et pendant ce temps-là, la police de Louis-Philippe avait quadrillé la Vendée, le bocage vendéen avec les fameuses culottes rouges. Donc on peut peut-être raconter ce débarquement.
Bien sûr, oui,
en avril 1832, la duchesse de Berry s'embarque à Massa di Carrara, débarque à Marseille. Marseille, en principe, doit se soulever. On attend 2000 hommes, il s'en réunit 60. Et on doit hisser le drapeau blanc au sommet d'un clocher pour donner le signal du rassemblement. Le sacristain a perdu la clé du clocher, donc on perd beaucoup de temps. Et finalement, le soulèvement de Marseille échoue. Et là, la duchesse de Berry, à qui tout le monde dit « Madame, il faut fuir », elle a une idée. D'abord, ce n'est pas le genre de femme à reculer. Et elle a une idée en tête, c'est la Vendée. Depuis le début, elle pense que la Vendée sera un pays fidèle.
Et pour cause, oui, elle l'a montré dans le passé.
Et puis, en 1828, il faut se souvenir qu'elle avait fait un voyage de propagande dans les provinces de l'Ouest. Et là, elle avait été reçue par les Vendéens avec un enthousiasme extraordinaire.
Alors, on n'a pas le temps de raconter toute cette campagne incroyable. Hein, malheureusement, je renvoie évidemment les auditeurs à votre ouvrage, La Duchesse de Berry, l'oiseau rebelle des Bourbons. Ce qu'il faut dire, c'est que pour elle, cette aventure se finit mal.
Se finit mal car le soulèvement vendéen est un échec qui se résume à quelques escarmouches. Et la duchesse de Berry ensuite est en cavale pendant 6 mois. Elle se cache à Nantes, dans la maison des demoiselles d'Huguigny. Et là, elle est trahie par un traître, Deutz, et elle est prise dans des circonstances totalement rocambolesques. Elle est arrêtée. Dans des circonstances extraordinaires, puisque elle a donc été dénoncée, la police cerne la maison et elle se réfugie avec ses partisans dans une minuscule cachette aménagée pendant la Révolution. Les gardes qui ont sondé toute la maison ne trouvent rien, on les met en faction Ils allument du feu pour se réchauffer et là, elle manque de prendre feu et il la voit éberluée sortir de la cheminée avec sa robe complètement brûlée.
Alors elle sera mise en prison, il faut dire, et c'est là, alors cet enfant de Bly, il faut juste un mot.
Oui, oui. Alors l'enfant de Bly, donc elle est en prison à la citadelle de Bly, est gardée par une garnison de 700 hommes, et on s'aperçoit très rapidement qu'elle est enceinte. Qui est le père de cet enfant? Puisque le duc de Berry est mort il y a 12 ans, alors cela a fait couler beaucoup
d'encre. Réponse dans la cassette qui se trouve sans doute au fond de la Seine.
Peut-être dans la cassette qui se trouve au fond de la Seine. Et j'ai également donné la réponse dans mon livre, dans une annexe. Je laisse les lecteurs le découvrir. En
Exactement.
Tout cas, ça n'est certainement pas ni Ménard, ni Guibourg, comme on l'a beaucoup dit, et encore moins le père officiel de l'enfant, Hector Lucchezzi-Palli, qu'elle épousera ensuite.
Ça fait partie des belles surprises de votre biographie.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire d'une femme libre et moderne, la Duchesse de Berry, Franck.
Et vous nous parliez tout à l'heure, Julia, de cette exposition à Blois jusqu'au 26 mai prochain. Eh bien, nous avons en ligne l'un des commissaires de cette exposition avec Hélène Becquet, c'est Gilles Malandin. Bonjour Gilles Malandin.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'on peut voir à Blois qui nous rappelle le souvenir de cette extraordinaire princesse?
Eh bien, l'exposition donc rassemble toute une série de documents assez divers, hein, iconographie, pas mal d'objets aussi personnels qui lui ont appartenu ou qui se rattachent à elle, des documents d'archives également, notamment qui viennent donc du département et de la région, et donc qui permettent à la fois de retracer toute la vie plutôt mouvementée. Hein,
Parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'elle a été emprisonnée, qu'elle était enceinte au moment de cet emprisonnement, bien entendu, mais ensuite, le gouvernement va la libérer en 1833, puis elle s'enfuit, elle part pour Venise.
Oui, enfin, elle va s'installer essentiellement quand même en Autriche.
Oui.
Hein, et puis aussi partager son temps, hein, et donc tout en n'ayant plus aucun rôle politique, hein, elle reste quand même une princesse. Hein, elle a une vie mondaine très 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 riche, et elle vit notamment donc au palais Vendramin
de Venise,
jusqu'à du moins l'unité italienne, hein, 1860, qui sera l'ultime révolution à la toucher de près.
On voit des lettres, des documents. Je ne l'ai pas visité, moi, cette exposition. Il faut que vous nous expliquiez.
Oui. Il y a toute une série de documents, donc répartis sur toute la chronologie, mais enfin qui privilégie toute la partie française, disons, de sa vie, avec une insistance, à la fois sur tous les grands événements, hein, notamment politiques, hein, qui jalonnent cette vie, puisqu'on insiste quand même beaucoup sur ce rôle exceptionnel, hein, ce rôle politique, ce rôle historique exceptionnel surtout, faut le dire, pour une femme, hein,
oui, voilà,
pour une femme dans un siècle qui a quand même très largement exclu les femmes, peut-être plus même qu'aucun autre.
Hein, c'est étonnant, cette femme qui joue un tel rôle à l'époque, hein, c'est vrai. Hein.
Ah bah, il y a pratiquement pas d'équivalent dans d'autres courants politiques. Il y a finalement que ce courant, en raison de la tradition royale, hein, de la tradition monarchique, il y a que ce courant qui finalement permet à une femme d'être encore dans une certaine mesure, on le voit entre 1830 et 1832 ou 33, d'être dans une certaine mesure leader, hein, d'un mouvement politique finalement.
Il y a dans cette exposition, je me suis laissé dire qu'il y avait notamment les fameux souliers de la duchesse, les souliers tachés du sang de son mari au moment de l'attentat de 1820.
Voilà. Puisqu'elle fut un témoin privilégié, hein, de cet attentat et de la mort de son mari, qu'elle n'a pas quitté une seule seconde pendant toute la nuit fatale. Alors il y a ces souliers. Ce qui me paraît surtout intéressant, c'est que effectivement ça renvoie, et il y a d'autres objets aussi du même ordre qui renvoient, si vous voulez, à toute cette dimension un peu émotionnelle et puis ou religieuse, si vous voulez, hein, toute cette religion royale, hein, qui est associée à ce courant politique particulièrement, quoi.
Merci.
Cette dimension un peu de relique, finalement.
Merci beaucoup, Gilles Malandin. Le titre de l'exposition, c'est « Au cœur des révolutions », et pour cause, oui, des révolutions, Marie-Caroline, duchesse de Berry, 1798-1870, parce que c'est vrai qu'elle n'est morte qu'en 1870. On peut voir cette expo, donc, juste en face du château de Blois. Ça s'appelle Expo 41, et c'est jusqu'au 26 mai 2013. Je disais, Laure Hillerin, qu'elle n'est morte qu'en 1870. Hein, c'est assez extraordinaire. Elle était aveugle à ce moment-là. Alors, il faudrait parler de ses enfants, enfants, de ses petits-enfants, raconter toute cette fin de vie qui est assez extraordinaire aussi, bien entendu, ce que vous faites dans votre biographie, et ce que vous faites très bien, la Duchesse de Berry, l'oiseau rebelle des Bourbons, dans la collection Grande Biographie chez Flammarion. Et puis donc, ce soir, on vous retrouvera à l'instigation de l'Abeille, l'abeille de Jean de la Motte Rouge, hein, qui organise ses conférences et ses concerts. C'est à l'ambassade de la République tchèque, donc à l'hôtel de la Rochefoucauld-Ligne.
Oui, qui est un très bel hôtel. C'est un passage 18e, puisqu'il a été, sa construction s'est terminée en 1913. Oui, il n'a jamais été habité.
Partie de ces hôtels néo-anciens, si l'on veut dire.
Voilà, c'est un très très beau cadre, tout à fait à la hauteur de cette princesse dont nous allons évoquer la mémoire ce soir.
Merci beaucoup, Laurie Lerin. Je rappelle que votre livre, parce que là nous n'avons fait évidemment qu'évoquer un certain nombre des grands aspects, quelques-unes des grands épisodes de la vie de cette duchesse de Berry, mais votre livre est littéralement fourmillant de détails, de révélations. C'est une belle biographie qui mérite sa place dans cette collection Grande Biographie. Merci beaucoup.
Merci à vous.